Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. La semaine passée, t'as sûrement pas manqué ça, j'ai parlé de l'hypervigilance. Hein, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est inquiétant. J'expliquais que de ressentir de l'anxiété, c'est absolument normal et sain, mais que c'est vraiment pas nocif en fait, que l'anxiété c'est pas le diable, que c'est normal et même que c'est sain quand c'est transporté quand c'est transposé plutôt en énergie positive, mais que ça peut effectivement devenir un gros problème quand c'est trop présent, quand ça nuit à ton fonctionnement, à ton jugement ou à certaines décisions, et que donc en parallèle, ça peut nuire à l'épanouissement de ton enfant. Je t'avais aussi donné un petit exercice à faire en lien avec ça, je ne sais pas si tu as réussi à y penser, donc de tenter de voir si d'abord tes pensées, tes peurs sont rationnelles ou irrationnelles, et quand elles étaient irrationnelles, je t'avais proposé de faire un exercice de respiration cassette. Donc, en respirant là, par les quatre côtés de la cassette, en te répétant la phrase « je ne suis pas en danger » ou « mon enfant n'est pas en danger » ou n'importe quelle autre phrase, en fait, qui te fait du bien à ce moment-là par rapport à, pour éteindre un petit peu la menace qui n'est pas une menace. J'aimerais donc que tu mettes le podcast sur pause si tu le peux, si t'es pas dans ta voiture, et que tu ailles répondre au petit sondage sous la description du podcast pour savoir si ce truc-là à aider à calmer les symptômes de l'anxiété et du stress. Puis pas du stress, là, si t'es en voiture ou si t'es à un moment où est-ce que tu peux pas le faire, j'apprécierais vraiment si tu pouvais venir me mettre un petit commentaire un peu plus tard. Donc, c'est un truc qui est hyper efficace lorsque pratiqué souvent la respiration cassette. Donc, aussitôt que tu ressens des symptômes physiologiques liés au stress, donc une respiration thoracique plutôt que ventrale, si on va remarquer ça quand on va commencer à respirer de façon plus saccadée, vraiment avec le haut des épaules, alors qu'habituellement, quand on est dans une respiration qui est normale ou profonde, vous allez remarquer qu'on va vraiment plus respirer par le ventre. Donc, en ce moment, en principe, tu ne devrais pas avoir beaucoup de stress là, si tu es en train d'écouter le podcast. Donc, tu devrais être en train d'avoir une respiration profonde, donc ventrale. Par contre, quand il y a une situation qui survient, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, si tu as une peur de perdre le contrôle, par exemple, parce que ton enfant n'est pas en train de respecter ta limite, ça se peut que là, hop, là, il y a un petit stress qui se déclenche et que ta respiration soit beaucoup plus dans le haut de ton corps. Donc, on appelle ça une respiration thoracique. Ça se peut que tu aies la mâchoire un peu plus serrée, crispée, des poings serrés, des épaules ou le dos tendu. Des idées aussi, la même idée que tu as en boucle dans ta tête. Là, tu rumines, des idées qui ruminatoires. Tout ça, c'est des signes qu'une menace est imminente et que ton système nerveux va très bientôt déclencher un réflexe, soit de combattre ou de se figer. Donc, soit affronter parfois de façon agressive la menace ou alors complètement faire de l'évitement. Là, je vais donner deux exemples très concrets. Si par exemple, tu es au parc et que ton enfant veut grimper dans la glissade du module, alors que c'est le seul enfant dans le module, là, puis qui est quand même assez grand, mais que toi, tu t'inquiètes, tu trouves ça trop dangereux, tu trouves ça trop menaçant, tu as peur, je sais pas, qu'il tombe en dehors de la glissade ou qu'il glisse à l'envers puis qu'il se blesse. Alors, tu vas annoncer que c'est l'heure de partir ou tu vas trouver une excuse par peur qu'il se blesse. Donc là, on est complètement dans l'évitement, dans la fuite. Alors oui, il y a un léger risque, mais le risque demeure minime, surtout si tu demeures proche de ton enfant et que la prise de risque demeure sécuritaire. Là, ça doit être jugé. Là, dans la situation, moi, je m'imagine la situation quand même sécuritaire, malgré le petit risque. Et cette prise de risque sécuritaire-là, elle est super importante pour le développement. Même si l'anxiété est bien réelle, le stress, la peur aussi est bien réelle, il y a une menace au niveau de ton cerveau qui fait en sorte que ton système nerveux déclenche une réaction de fuite. Même si l'anxiété, le stress et la peur sont réels, ils ne sont pas pour autant rationnels. Donc, la menace dans ton cerveau, elle est là, mais la menace dans la vraie vie, elle n'est pas là. Il n'y a pas vraiment de menace à ce moment-là. Si, à l'inverse, pour t'exprimer une réaction de combat à la place, si, mettons, même situation, là, t'es au parc, ton enfant veut grimper dans la glissade du module, alors qu'il est seul, mais toi, tu lui mets une limite claire, que c'est comme, non, je veux pas que tu montes dans la glissade, c'est dangereux, mais ton enfant, il écoute pas. Et là, t'as peur de perdre le contrôle de la situation, tu te sens pris au piège et tu décides évidemment inconsciemment, ton système nerveux, en fait, met en place une action, une réaction de combat. Alors, tu fais ni une ni deux, tu t'élances, tu grimpes dans la glissade de Spider-Man pour aller agripper ton enfant par la jambe, tu le tires, tu le fais descendre et vous retournez illico à la maison en lui lâchant pas la main une seule seconde de peur que, je sais pas là, qu'il s'échappe puis qu'il parte à courir puis que soudainement, tu puisses pas courir aussi vite que lui. Bref, notre cerveau nous joue des drôles de tours, des fois. Donc ça, ce serait une réaction un peu plus... Du type combat, combattre donc. Et je pourrais te donner mille et une exemples de réactions de combat ou de réactions de fuite face à une peur que t'as, une peur qui est rationnelle ou une peur qui, à l'inverse, est irrationnelle. Donc, quand la peur est rationnelle, que le danger est réel, là, pour vrai, là, il y a vraiment une menace, là, je sais pas, moi, ton enfant s'élance vers la rue pour aller attraper son ballon puis qu'il y a une voiture qui s'en vient, mais évidemment, le danger, la menace, elle est très, très, très réelle. Donc, il faut pouvoir réagir vite. C'est pas le moment de que notre cerveau tombe dans une grande réflexion et dans un grand raisonnement analytique de comme, bon, la voiture roule à telle vitesse. Et non, c'est pas le temps de faire ça. Là, c'est le temps de réagir et vite à part de ça. Donc, c'est très, 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 encore une fois, nécessaire de pouvoir que notre système nerveux, en fait, puisse réagir rapidement. Une chance qui est là. Et d'ailleurs, c'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans notre héritage génétique parce que c'est un outil ultra puissant qui a permis littéralement notre survie il y a des millions d'années. Les hommes de Cro-Magnon qui n'avaient pas un bon réflexe de combat ou de fuite n'ont juste pas survécu. Ils sont morts. Puis la sélection, parce que devant un danger réel, et la sélection naturelle a privilégié ceux, tous les hommes ou les femmes qui réagissaient fortement devant le stress, en ayant soit une réaction de combat ou de fuite qui leur a sauvé la vie. Et même si aujourd'hui, c'est presque plus nécessaire, ben le stress, hein, parce qu'on n'est pas constamment devant des menaces là, 50 fois par jour, ça arrive des fois, mais pas tout le temps, mais le stress demeure dans notre vie, dans notre quotidien maintenant, et des fois, très, 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 très présent, le stress particulièrement quand on devient parent. Donc, et ça se peut qu'on aille des réactions de fuite ou de combat devant des menaces qui n'en sont pas, parce que le stress est très ancré dans notre quotidien et que, bon, on peut y réagir à certains niveaux. Il y a des gens qui vont très bien naviguer dans le stress, et qui vont être capables de le réguler, de le canaliser. C'est ça l'objectif, c'est ça qu'on veut. On veut par contre être capable de réagir activement devant une menace qui est réelle, mais quand la menace n'est pas réelle, en temps normal, ce qu'on veut, c'est que l'humain soit capable de réguler puis de comprendre que la menace n'est pas réelle et donc d'arriver à se calmer rapidement. On veut pouvoir utiliser le stress, l'anxiété, comme étant un puissant moteur de motivation plutôt qu'un frein finalement. Et donc, tout ça peut faire en sorte que, quand on est parent, on peut prendre des décisions basées sur nos peurs, qui peuvent être évidemment handicapantes et qui peuvent nuire à l'épanouissement, l'épanouissement et au développement de certaines habiletés comme la résilience, l'accomplissement de soi, la confiance, l'estime en soi aussi beaucoup. Si par exemple on interdit à notre enfant de 6-7 ans d'aller jouer au parc qui se situe à un coin de rue, tu sais, genre tu le vois de ton salon, ben ça peut être une décision qui est basée sur une peur qu'il arrive quelque chose puis que t'es pas là, très à côté de lui pour contrôler la situation puis pour intervenir rapidement. Ça peut être de refuser qu'un enfant de 9-10 ans participe à une fin de semaine de canot camping avec l'école, même s'il est bien préparé, même si tu fais confiance à l'équipe de l'école, de peur qu'il arrive quelque chose puis que t'es pas là. Ça peut être de refuser, je sais pas moi, une invitation pour aller manger au restaurant, tiens, avec un ami le soir, puis t'es en solo parental ou t'es un parent monoparental, puis là, ben, tu veux pas faire garder ton enfant le soir par une gardienne ou un gardien, donc tu refuses l'invitation. Ça peut être d'habiller ton enfant avec beaucoup, beaucoup trop de couches pour aller à l'école, de peur qu'il y ait froid, même si c'est pas faut l'adapter à la température parce qu'on est le printemps puis il fait 8 degrés. Ça peut être de refuser que ton enfant pratique un sport ou une activité de peur qu'il se blesse ou qu'il arrive quelque chose avec l'adulte. Ça peut être de refuser ou de trouver une excuse pour que ton enfant ne puisse pas aller à une fête d'amis au cas où, d'un coup, que les parents seraient pas assez responsables, d'un coup, que les parents seraient pas disponibles pour aider mon enfant, puis là, tu peux pas être là, fait que tu préfères fuir, tu préfères éviter la situation, et ça, l'anxiété va faire en sorte qu'un petit peu inconsciemment, tu vas trouver mille et une excuses, mille une raison pour éviter que ton enfant aille à la fête ou que ton enfant bon, participe à tout ce que j'ai dit. Tout ça, c'était pas mal des exemples de fuite plutôt que de combat. Là, c'était pas des exemples de combat, c'était vraiment des situations où est-ce qu'on utilise l'évitement pour répondre à l'anxiété. Donc, cette anxiété-là, cette hypervigilance-là, elle est normale, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'elle devienne un problème, un peu dans les exemples que j'ai nommés précédemment, parce qu'il n'y a pas vraiment de menace et que ça peut être très adapté selon l'âge et le contexte, l'âge de l'enfant et le contexte. Donc, voici quelques signes, ou plutôt quelques questions que tu pourrais te poser, qui pourraient t'indiquer que c'est pas rationnel et donc pas aidant pour ton enfant. Donc, si tu as de la difficulté, là, tu sais pas trop, là, si tu es rationnel, ça l'est-tu pas, si tu es adapté, ça l'est-tu pas, j'ai-tu raison d'être en hypervigilance ou pas, j'aimerais que tu te notes quelque part ces trois questions-là à se poser pour arriver à se calmer. Donc, premièrement, il faut se demander si notre peur est rationnelle ou pas. Puis si on s'est pratiqué la semaine passée, c'est ce que je t'avais proposé comme exercice. Donc, est-ce que le danger, la menace, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle peut vraiment nuire à la sécurité ou au développement de mon enfant à tout coup? Ou il y a peut-être un petit risque, oui, de blessure, mais bon, c'est pas la fin du monde. Donc, est-ce que c'est important ou c'est pas vraiment important le danger à ce moment-là? Première question. Deuxième question. Est-ce que je crois que mon enfant est prêt pour vivre ce genre d'expérience ou cette situation-là? Est-ce que mon enfant démontre un intérêt? Est-ce que c'est normal à son âge? Est-ce que c'est un contexte acceptable? Donc, par exemple, le week-end de canoë camping pour un enfant de 9-10 ans avec son école, tu sais, que tu connais le personnel, qu'ils sont en petits groupes, que c'est sécuritaire, que ça fait 15 ans qu'ils font ça, que ton enfant veut, est-ce que tu crois que ton enfant est prêt? Ben, moi, dans ma tête, la réponse serait oui. Je pense qu'un enfant de 9-10 ans qui, avec tout ce contexte-là et cet âge-là, oui, je pense que mon enfant est prêt. Donc, ça, c'est des questions qui, souvent, ça va de soi. C'est souvent les questions les plus faciles à répondre, hein, si c'est oui ou non. Mais la troisième se corse un petit peu. Est-ce que je m'apprête à dire non ou à empêcher mon enfant de vivre cette expérience, de faire cette activité-là ou de prendre cette décision-là parce qu'il y a un danger réel pour lui, pour sa sécurité, ou je refuse et j'évite la situation pour calmer ma propre angoisse parce que ça me rassure moi si mon enfant n'y va pas, parce que moi, je ne suis pas prête, parce que moi, je serais inquiète pendant toute la fin de semaine puis je me roncerais les ongles jusqu'au sang puis je pèterais un câble. Puis des fois, je me dis, moi, en toute honnêteté, sincérité et vulnérabilité, des fois, je me le dis là, que c'est totalement moi qui n'est pas prête. Quand je me pose ces trois questions-là, ça l'arrive que je me dis, comme non, je suis vraiment pas prête. C'est vraiment moi. Mon enfant, il est prêt, mais moi, je suis vraiment pas prête. Puis c'est correct aussi. C'est correct d'écouter sa petite voix. C'est correct d'écouter son instinct puis de se respecter tant que ce ne soit pas un problème qui est courant, qui est répété dans plusieurs situations. Mettons que ma fille me demande pour aller dormir chez une amie. Mais ma fille, elle a 6 ans. Elle se réveille parfois la nuit pour venir dans notre lit ou parce que, bon, elle fait des cauchemars. Elle commence à descendre à l'étage avec sa sœur le matin. Elle commence à aller faire son déjeuner la fin de semaine. Là, la semaine, on l'accompagne. Mais la fin de semaine, elle commence à faire ses petites choses le matin, à se sentir vraiment plus à l'aise. T'sais, elle n'a plus besoin de moi pour ouvrir la lumière de la salle de bain, même s'il fait noir, parce qu'elle a encore peur du noir. C'est une peur qui est tout à fait normale, mais elle commence à affronter ces peurs-là, puis à se développer un petit peu plus dans son autonomie, puis dans sa confiance en soi. Donc, ultimement, est-ce que ce serait dangereux pour le développement ou la santé de mon enfant d'aller dormir chez son ami? Non, il n'y a pas vraiment de danger réel. Je fais confiance aux parents, je connais les parents, ils habitent à 2 coins de rue d'ici, donc il n'y a pas vraiment de danger réel. Je sais qu'il serait bien, qu'il serait confortable, qu'il y aurait du plaisir. Est-ce que mon enfant est prêt ou a l'intérêt pour vivre cette situation-là? Ben oui, parce que c'est elle qui me le demande depuis le début de l'année, donc je suppose que oui, puis tu sais, je pense qu'elle est prête, puis au pire, si jamais ça se passait pas bien, je peux toujours prendre la voiture ou aller la chercher, même si c'est 8 ou 9 heures, parce que ma fille, finalement, a changé d'idée. Puis ce serait tellement correct, ce serait tellement pas grave, puis ce serait même normal que ça se passe comme ça la première fois. Mais 3, est-ce que je dis non pour me rassurer, parce que j'ai mes propres inquiétudes, puis que j'ai mille et un scénarios puis doutes dans ma tête? Oui, à 100%. Oui. C'est totalement moi, tu sais, que ça rassure et non pas mon enfant. Et est-ce que c'est correct à ce moment-là de m'écouter? Oui, aussi à 100%. Par contre, je pense honnêtement que si cette situation-là se passerait quand ma fille a 8, 9 ou 10 ou 11 ans, je pense que ce serait aussi complètement différent. Puis que là, il faudrait un petit peu que je travaille sur mon lâcher-prise puis que je fasse confiance à mon enfant puis que j'accepte qu'elle prenne des risques. qu'au risque de trouver ça un petit peu difficile ou même par moments désagréable, mais qu'elle apprenne de ça, puis qu'elle se sente fière d'elle, puis qu'elle développe sa confiance, qu'elle développe de la résilience, puis que si elle rencontre un problème, qu'elle soit capable de trouver une solution. Si par exemple, justement, elle est inconfortable, de dire comme ben là, j'ai deux choix, soit je décide de surmonter ma peur puis de dormir quand même ici, ou bien je trouve une solution, ou la solution peut être, j'appelle ma mère, elle vient me chercher, puis je vais voir le parent, puis je dis, excuse-moi, mais est-ce que je peux appeler ma mère, j'aimerais ça qu'elle vienne me chercher. C'est, ma fille va développer ça, cette recherche de solution, cette recherche de solution à cette problématique-là, si finalement elle n'est pas confortable. Mais au moins, elle aura essayé, puis tu sais, je suis sûre qu'au final, elle va revenir à la maison en me disant « Maman, je suis fière de moi pour avoir essayé. » Plus que si je continue à l'empêcher de le faire à 9-10 ans parce que le monde est rendu tellement fou, on sait jamais, tu sais. On sait jamais des parents, vraiment. Je les connais-tu vraiment? À un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise aussi. Des fois, il faut apprendre à prendre des décisions difficiles puis à passer un petit peu par-dessus notre propre inconfort pour rendre service à nos enfants. D'accepter qu'ils fassent des erreurs, qu'ils passent peut-être un mauvais moment en sachant qu'ils vont apprendre. Puis que t'es quand même là pour lui ou pour elle, hein. Il va surtout retenir que tu lui fais confiance, que tu sais qu'il peut prendre des bonnes décisions pour lui, puis en tenant compte des autres aussi. Par exemple, en lui disant juste des petites phrases comme « Tu veux pas porter tes mitaines? Ok, ben garde, ils sont dans ma poche. Si t'as froid, dis-le-moi. » Juste en faisant des petites choses comme ça, plutôt qu'en insistant pour qu'il mette ses mitaines, parce que toi, tu juges qu'il fait froid, ou parce que toi, t'as froid aux mains, ou parce que toi, tu trouves que ça n'a pas de bon sens pas de mettre de mitaines, même s'il fait moins 2 dehors. Mais tu sais pas, peut-être que ton enfant, il est actif, puis que lui, en étant en train de patiner ou de faire whatever qu'il est en train de faire, ben son corps, il a chaud, puis pour 5 minutes, qu'est-ce que ça fait, même s'il met pas ses mitaines? Puis dans 5 minutes, tu lui fais confiance que s'il a froid, il sait quoi faire. Si j'ai froid aux mains, je vais aller mettre mes mitaines. Donc, tu lui montres que tu lui fais confiance, tu lui montres que t'es capable de respecter ses limites, puis que ton enfant, tu lui fais confiance que lui aussi est capable de respecter ses limites, que lui aussi est capable de respecter le confort de son propre corps. Puis c'est pareil pour l'alimentation. Arrêtons de forcer nos enfants à terminer leur assiette, puis encourageons-les plutôt à servir des petites portions, puis à manger à leur faim, à la place. Ils vont apprendre à se faire confiance. Puis je suis pas en train de dire qu'ils se laissent se servir des montagnes de nourriture, puis d'accepter de gaspiller, là. On peut quand même les encourager à servir des petites, petites portions, puis à s'en reprendre plusieurs fois plus tôt. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais ça ultimement, dans un monde idéal, là, que les parents s'enlèvent de la tête qu'il faut que les enfants terminent leur assiette avant de manger le dessert, puis qu'il faut qu'ils goûtent, qu'ils mangent tout, même les choses qu'ils aiment pas. C'est des choses qu'on faisait, que nos parents faisaient, que leurs parents faisaient aussi. Mais je pense que maintenant, on a tout intérêt à leur montrer qu'on leur fait confiance, puis à leur laisser cette autonomie-là par rapport à leur propre corps, par rapport à leur faim. Parce qu'il y a personne d'autre qu'eux qui savent s'ils ont encore faim ou s'ils n'ont plus faim. Donc, en faisant ça, nos enfants apprennent, en fait, je suis capable, je suis compétent, je peux faire des grandes choses tout seul, je peux rencontrer un problème ou un défi et trouver une solution, je suis apte, et apprendre à se faire confiance. Hein. C'est pas grave si j'échappe un peu de lait à côté de mon verre en me le servant moi-même, j'ai juste à ramasser après, puis je développe des belles compétences, puis je développe une belle confiance en moi, puis je trouve des solutions à mes problèmes. Et je deviens un enfant compétent, un humain compétent, puis mes parents me font confiance. Puis pour nous aussi, les parents, je pense que c'est hyper important aussi d'accepter de vivre dans ces inconforts-là. Parce qu'à un moment donné, ben, on ne pourra plus décider de tout et tout contrôler. L'adolescence va arriver, puis elle va arriver très vite. En fin de semaine, moi puis mon chum, on parlait, tu sais, de comme le cégep, puis en tout cas, par rapport à la maison, rester ici, tout ça, puis on n'a pas l'intention de déménager, mais en tout cas, bref, hein, on se projetait un peu, puis dans la maison à long terme, puis mon chum, il a dit quelque chose comme, tu sais, tu réalises que le cégep, c'est dans 12 ans, là, tu sais, c'est comme ça, va arriver vraiment vite, là, tu sais, dans 10-12 ans, nos enfants vont être adultes, là, dans 10-12 ans, puis tu sais, tabarouette, ma fille, elle a 6 ans, ça a passé vite. Ça veut dire que c'est on a fait le tiers déjà de son temps jusqu'à temps qu'elle devienne adulte. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment fou. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, ils vont être adolescents, puis on pourra même avant ça, là, tu sais, pré-adolescent, puis on pourra plus décider de tout, on pourra plus tout contrôler. Puis que si, en fait, on continue à le faire, ben ils vont commencer à faire des choses dans notre dos, tout simplement. Ils vont commencer à faire des choses à cachette. Fait que si tu refuses que ton enfant ait seul en vélo au parc ou à l'école ou chez son ami parce que tu sais pas exactement il est où, là, comme je peux pas le laisser aller en vélo, je pourrais plus contrôler où est-ce qu'il va, ben attache ta tuque la journée où il va avoir son permis de conduire, qu'il va avoir accès à une voiture. Je dis pas que ça va être facile, mais ça va être nécessaire de travailler ce lâcher-prise-là. Et en toute transparente, en toute transparence, il va falloir que je travaille ma diction. Je suis une maman anxieuse, mais je pense que tu t'en doutais, hein? Je pensais pas être une personne aussi anxieuse dans la vie, aussi stressée, mais je réalise là, que particulièrement maintenant que j'ai des enfants, que ça a pris une proportion différente, en fait, une importance différente depuis que je suis maman. Je suis souvent vraiment plus dans l'inquiétude. Sauf que récemment, j'ai aussi remarqué que j'étais en train de un petit peu plus transmettre ça à ma plus grande. Dernièrement, là, elle me demandait pour rester dans la voiture avant, par exemple, il y a à peu près 3-4 mois, quand j'allais chercher sa sœur au CPE, elle me demandait pour rester dans la voiture, pour continuer de lire son livre. Puis, tu sais, réellement, concrètement, ma fille elle a 6 ans, la voiture est dans le stationnement du CPE, ça me prend 2 minutes à aller chercher Margot, parce que Margot est déjà habillée, déjà à l'extérieur, puis que, bon, dans la voiture, il n'y a aucun danger, les portes sont barrées, mon enfant, tu sais, peut pas ouvrir la porte en arrière, mais s'il y a un danger, elle sait qu'elle peut aller en avant ouvrir la porte, elle sait qu'elle doit pas ouvrir la porte à quelqu'un qu'elle connaît pas. Bon, bref, hein? Est-ce qu'elle est prête puis peut m'attendre 2, 3, 4 minutes? Oui. Est-ce que je la laisse faire? Non. Est-ce que c'est une décision qui est basée sur la réticence de mon enfant parce qu'il y a un danger réel? Pas vraiment. C'est basé totalement sur mon inquiétude puis sur le fait que moi, je suis pas prête puis que je suis inquiète. Puis honnêtement, je sais pas à 100% de quoi. Je suis inquiète quoi? Qu'elle se fasse kidnapper, qu'elle sorte de l'auto puis qu'elle se fasse frapper par une voiture en se dirigeant vers la porte qui est à 3 mètres, qu'elle meure asphyxiée, qu'elle s'étouffe avec une gomme, qu'elle se coupe avec une page de son livre et meurt au bout de son sang. Non, mais tu sais, à un moment donné, on fait preuve de jugement aussi. Je m'en vais pas à l'épicerie, je m'en vais pas au dépanneur. Tu sais, elle pourrait, du haut de ses 6 ans et des poussières, rester 2-3 minutes dans le stationnement du CPE en lisant un livre pendant que je vais chercher sa sœur. Mais moi, non, on n'a pas le droit avant 7 ans. C'est pas sécuritaire, mon amour. Il pourrait arriver des dangers, blablabla. Bon. Mais là, ce qui arrive, c'est que maintenant, si j'oublie mon téléphone, on embarque dans l'auto, les enfants sont attachés, puis là, oh shit, j'ai oublié ma sacoche, j'ai oublié mon téléphone, faut que je rentre dans la maison pour aller chercher, ça prend 15 secondes, on est dans le stationnement, dans la maison, dans notre cour, en sécurité, ben ma fille refuse de rester dans l'auto tout seul. Et c'est la méga panique. Puis il faut qu'elle sorte avec moi pour venir chercher les clés avec moi, parce qu'elle peut pas rester dans l'auto plus que 15 secondes, parce que c'est dangereux! C'est un petit peu moi qui lui a transmis ces peurs-là, parce que j'aurais pu expliquer d'autres façons. Mais j'ai focusé sur comme toutes les choses malheureuses et tristes et qui pourraient arriver, tu sais. Preuve comme quoi, des fois, il faut faire taire notre petite voix d'inquiétude, notre petit Bruno. Tu sais, le film Luca, les monstres marins, mais les parents de Luca ont tellement peur qu'il est sur la rive, qu'il aille sur la terre ferme, qu'ils lui ont menti toute sa vie. Puis Luca, ben, il est anxieux devant la nouvelle vie qu'il découvre, hein, toutes les petites nouvelles choses qu'il découvre. Puis Alberto, ben, lui, son ami, son nouvel ami, lui apprend à dire « Silencio Bruno », à dire à sa petite voix d'anxiété, de stress, de se taire une minute pour foncer puis essayer des nouvelles affaires. Mais c'est un peu la même chose pour toi, hein? Silencio Bruno! Écoute tes émotions, mais ne laisse pas ta peur te driver puis décider pour toi. Donc vérifie que la situation soit sécuritaire pour la santé et le développement. Ça, c'est ton rôle de parent. Mais une fois que c'est all clear, qu'il n'y a pas de danger, que ton enfant il est prêt, que tu es confortable puis que c'est toi qui as une crainte et non pas ton enfant, accepte d'affronter cette crainte-là. Fais confiance à tes enfants qui peuvent aussi affronter leur crainte. Et comme t'as écrit, je l'ai écrit dans une capsule récemment sur Instagram, un gâteau se mange une part à la fois, hein? C'est correct de pas être dans la perfection non plus. Ça se peut que ça te prenne du temps de travailler sur ton lâcher-prise. Ça se peut que ce soit pas possible ou même que ce soit pas facile ou même possible tous les jours. Puis ça aussi, il faut l'accepter. Mais au lieu de te taper sur la tête quand t'arrives pas à lâcher-prise ou quand tu te rends compte un petit peu trop tard après avoir dit non que t'as laissé ton petit Bruno gagner, ben c'est pas grave. Pense plutôt au progrès que tu as fait. Pense à comment tu aurais géré la situation il y a 6 mois ou il y a 1 an. Et tu vas voir que oui, il y a du progrès. Oui, c'est mieux que c'était. Oui, tu arrives à lâcher prise pour plusieurs situations. Est-ce que c'est parfait, tu arrives pour tout? Non. Mais il y a quand même une amélioration. Et si ça demeure difficile pour toi de vivre des situations où ton enfant va peut-être struggle, qu'il va peut-être se sentir inconfortable au début et que tu sais que tu vas avoir envie de jouer les super moms ou les super dads et de le sauver en évitant la situation qui est anxiogène, ben délègue. Si tu sais que toi, t'es plus dans l'hypervigilance, dans le stress, dans l'anxiété, demande à ton chum, à ta blonde, à ta mère, d'aller avec ton enfant à son cours de natation, d'aller le porter à son premier cours, son premier jour de 15 jours. Des fois, juste ce petit geste-là de déléguer pendant que tu gères ton anxiété, puis tu laisses quelqu'un moins anxieux, moins stressé, faire ce petit bout-là de chemin avec ton enfant, ça va être plus bénéfique et pour toi et pour ton enfant. Et si le sujet t'intéresse, je m'en doute si tu es encore ici à écouter l'épisode, je voulais te rappeler encore une fois qu'il y a une mini-formation qui va bientôt être disponible pour te donner encore plus de pistes pour réguler tes émotions, ton anxiété, ton stress parental. J'ai pas encore la date précise de la sortie de cette formation-là parce qu'il y a beaucoup de projets qui bouillent avec WeKid, mais ce sera assurément avant l'été. Alors je t'invite à t'inscrire à mon infolette si ça t'intéresse pour recevoir les informations concernant évidemment la prévente à rabais et la date de sortie. Donc, tous les détails vont être dans la description du podcast. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Oublie pas de faire ta petite respiration cassette quand tu vis du stress ou quand tu ressens des symptômes de stress ou d'hypervigilance. Et aussi, oublie pas les trois questions essentielles. Donc, est-ce qu'il y a un danger qui est réel? Est-ce que mon enfant est prêt pour vivre ce genre de situation-là ou s'il y a un intérêt? Et troisièmement, est-ce que c'est pour répondre à ma propre anxiété ou c'est vraiment pour répondre à une inquiétude de mon enfant que je prends cette décision-là et ça devrait déjà être beaucoup plus facile pour toi. Tourlou!